large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Sarah Kalsine, on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission dans le Théâtre de l'Oriental de Vevey pour parler de ce spectacle Falta Lady, une création, votre création avec vos complices, qui commence demain à l'Oriental jusqu'au 13 octobre. Falta Lady, vous l'avez esquissé hein, dans la fin de la première partie, le destin, enfin en tout cas un spectacle qui gravite autour des destins de trois immenses stars de cinéma, Marilyn Monroe, Audrey Hepburn et Brigitte Bardot. Voilà, pitch.
Ouais, alors je peux
vous
raconter.
Ça, c'est le truc facile du journaliste. Débrouillez-vous, racontez-moi.
Je peux vous raconter comment est née l'idée. Une envie avec Danae et Elisa de travailler ensemble et de jouer ensemble. Et il y avait que ça au début, qu'une envie de jouer sans texte, sans metteur en scène qui viendrait nous chercher. Bon, finalement, c'est moi qui fais la mise en scène, mais il y avait un désir de jeu très fort. Et par ailleurs, moi, je travaille beaucoup avec les images d'icônes dans la direction d'actrice. C'est-à-dire que je demande à chaque acteur et actrice de choisir un compagnon de travail. Et puis, donc ça peut être Britney Spears, Michael Jackson. Et c'est un petit secret pour le travail. Et puis ensuite, le spectateur n'a pas accès à ça. Mais ça donne un compagnon, en fait, dans la recherche de personnages, je dirais. Et puis... Danae, Lisa et moi, on a chacune une histoire particulière avec ces actrices où on nous a souvent dit qu'on leur ressemblait. Alors, c'est presque un peu une blague, mais bon, vous verrez dans le spectacle, on joue quand même sur cette ressemblance sans la nommer. Mais moi, on m'a beaucoup dit depuis que je suis post-ado que je ressemblais à Marilyn Monroe. Alors maintenant, c'est moins le cas, mais à l'époque. Et donc, je pense que j'en ai joué alors que ça ne m'intéressait pas plus que ça quand j'étais jeune. Je ne connaissais pas l'histoire de Marilyn Monroe. Mais le fait qu'on me le dise et qu'on me plaque une image
vous
sur moi...
Vous a amené à elle.
Ouais. Ben, je me suis mise à connaître toute sa vie, en fait.
Poupoupidou.
Je connais tout. Je connais l'histoire de ses maris. Je connais ses films sans les avoir tous vus. Par ailleurs, c'est plus par l'image qu'elle renvoie. Et donc, c'est de ça que parle le spectacle. Comment on peut nous plaquer en fait des images quand on est une femme plus particulièrement, et qu'est-ce que ça modifie en fait dans la perception de soi, dans la perception de son corps.
Bon,
ça,
on arrive à ce concept de gaze hein, qui est le regard, mais dans un sens un peu particulier, le male gaze, le regard mâle sur les femmes, et le female gaze, le regard féminin sur les femmes. On y reviendra peut-être. Le destin pas commun de ces trois personnes, de ces trois actrices, c'est qu'à un moment donné elles sont sorties du métier. Oui. Hein, Marilyn par la mort, Audrey Hepburn, c'est pas drôle.
Non, pardon.
Mais bon, comme c'est votre copine, vous avez le droit.
Voilà, comme c'est moi.
Voilà. Audrey Hepburn a quitté un jour le métier, elle est allée à l'UNICEF, a fait une carrière ensuite un peu plus... sortie de ce monde du cinéma, en tout cas, dans l'humanitaire. Mm-hmm. Et puis, Brigitte Bardot a quitté aussi assez abruptement et s'est isolée. D'ailleurs, elle est encore en vie, elle vient de fêter ses 90 ans, Brigitte Bardot. Elles sont toutes sorties, ça fait partie du truc... Et puis, enfin voilà, avec un moment, un constat, je peux plus être là-dedans.
J'arrête, quoi. Oui. Et ça nous plaisait aussi, alors que nous, on est plutôt en début de carrière.
En train d'y entrer, ouais.
de travailler ça, de qu'est-ce qui fait qu'on commence, qu'est-ce qui fait qu'on arrête, quel rapport on a à ce métier, et puis plus largement au fait de jouer, au plaisir de jouer, et donc au manque. Parce que jouer, ça a toujours un rapport avec le manque. Le manque de rôle, le manque de metteur en scène, pas le bon rôle, je joue pas assez, je voudrais jouer plus. Un jour, j'aimerais rentrer à la Comédie Française où Marilyn Monroe, qui rêvait, en fait, alors qu'elle a une immense carrière, elle rêvait de jouer dans des films beaucoup plus sérieux.
Elle a essayé Broadway, elle voulait autre chose que
théâtre.
La pin-up, quoi.
Oui, ouais. C'est ça. Et en même temps, elle en a tellement joué de son rôle de pin-up pour arriver là où elle est arrivée. Donc c'est tout ce paradoxe et cette ambivalence qui nous a intéressés.
On peut lire, alors falta en espagnol, se dire manque, hein, c'est le manque, donc c'est la femme qui manque. Il y a un jeu de mots avec fatal aussi, évidemment, hein, l'anagramme de falta, c'est fatal. Fatal Lady, c'était des femmes fatales toutes les trois. Enfin, dès qu'une actrice devient à ce point-là mondialement connue, ça devient une femme fatale. Il y a un regard sur donc, le male gaze, cette façon dont toute carrière artistique féminine doit passer par le prisme et par le filtre de ce que le regard regard masculin veut bien lui laisser, quoi.
Et on pourrait dire dépend de ce regard-là. Autant pour ces actrices-là que même pour nous aussi. En tout cas, c'était une réflexion qu'on avait. Danaé racontait qu'elle, quand elle a commencé sa carrière d'actrice il y a 10 ans, en sortant d'école, elle est rentrée très tôt à l'école. Elle est rentrée à 18 ans, je crois. On ne lui proposait que des rôles de prostituée. Parce qu'elle est très belle, blonde, elle a des formes. Et ça, c'était un carcan dont elle voulait sortir. Et on se pose la question voilà, de comment sortir de ces carcans-là et pourquoi on se retrouve tout le temps coincé dans ce regard. Ce regard masculin, mais qui est plus un regard dominant aussi. Et comment nous, comme spectateurs,
je réfléchissais à ça en venant vous voir, je me disais, bon... Alain Delon, là, qui vient de mourir, il a aussi une carrière dirigée par le regard qu'on avait de lui, hein, avec les hauts, les bas. Sauf que lui, il était dans la partie dominante du patriarcat. On ne va pas forcément entrer dans le militantisme maintenant, même si votre spectacle, il est un peu militant. Hein, mais voilà, ce n'est pas le même combat. Quoi, hein. Delon, il a eu une vie dictée par sa carrière, mais il avait les clés.
Il pouvait faire ce qu'il voulait. Il avait les clés. Ses rôles.
Il a pu être producteur. Il a pu, voilà.
Bien sûr. Bon, Marilyn Monroe, je pense qu'elle avait compris, alors je parle d'elle parce que c'est celle que je connais le mieux, hein. Marilyn Monroe, elle avait compris que c'était aussi un enjeu de l'argent, de gérer sa carrière, de devenir productrice. Elle a monté une boîte de production également. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'Audrey Hepburn, elle a quitté le métier, c'est par envie de reprendre en main, en fait, aussi sa vie. Et que si on n'est qu'une image dans le regard dominant, au bout d'un moment, on se sent coincé là-dedans.
Aujourd'hui, le monde de l'art et le monde en général change. Hein. La révolution MeToo est peut-être un des événements majeurs de ce début de 21e siècle. Et on parle beaucoup de female gaze, justement, hein, de beaucoup plus de metteuses en scène, de réalisatrices qui viennent montrer une autre image de telle ou telle actrice, ce qui leur fait souvent un bien fou. En tout cas, c'est ce qu'elles disent. Hein.
Oui, j'avais envie d'abonder dans votre sens en disant que ça fait du bien, enfin, que ça arrive. Et alors le spectacle essaye aussi de déployer ce que... Donc le female gaze, c'est un concept qui a été vulgarisé récemment par une critique de cinéma qui s'appelle Iris Bray, et on le travaille dans le spectacle. Mais le spectacle, il n'est pas militant, enfin... Moi, je suis très militante, je suis féministe, mais dans le spectacle, on peut très bien, on suit une histoire sans qu'on nous donne la leçon ou qu'on fasse une conférence sur le female gaze ou toutes ces questions-là. C'est-à-dire qu'on suit l'histoire de quatre personnes
parce qu'il y a un gars,
ordinaires.
On va peut-être parler de son
rôle. Oui, il y a un garçon aussi. Quatre personnes ordinaires qui essayent de jouer ensemble et qui se retrouvent prises dans toutes ces questions-là, mais un peu malgré elles. Et puis, alors, le female gaze, ça a été théorisé par Iris Bray, et ça se pose la question de comment avoir un regard qui soit moins dominant, en tout cas de déplacer les choses. C'est pas tant le regard féminin qu'un regard qui part des sensations et pas que de la sexualisation, en fait,
du
corps, des
acteurs. C'est ça, c'est la sexualisation qui est le point majeur du male gaze, du regard masculin.
Ouais, quand même, c'est le plaisir un peu scopique mais qu'on a au cinéma et qui est aussi, enfin je veux dire, c'est bien aussi que ça existe, hein, mais c'est de voir comment on peut déployer le regard autrement et par d'autres biais.
Vous êtes toutes les trois des jeunes artistes, je vous coupe, pardon, mais des jeunes comédiennes. Vous voyez trois icônes, hein, vous les nommez comme ça d'ailleurs, hein, qui ne se sont pas rebellées. Qui n'étaient pas dans un monde où c'était possible. Hein. Mmh. Alors leur rébellion, c'est d'en sortir. Une fois, pour une par la mort, pour l'autre par un autre choix de carrière, et pour la troisième, Brigitte Bardot, par l'isolement, les animaux, etc.
Ouais.
C'était la seule façon de se rebeller. Comment vous voyez le mouvement aujourd'hui de ces actrices? Pas toutes, hein. D'ailleurs, il y en a certaines de générations antérieures qui refusent MeToo, hein, qui se mettent contre cela. Vous auriez pu intégrer d'ailleurs à votre trio une Catherine Deneuve, par exemple.
Bah peut-être que Arthur joue Catherine Deneuve. Non, il joue pas Catherine Deneuve. Après, ça nous plaisait d'avoir, alors qu'on est toutes les trois féministes dans la vie, ça nous plaisait d'explorer des figures anti-féministes, ou en tout cas qui ne soient pas qui ont complètement embrassé la carrière et qui.
On parle de ces trois-là, hein, qui n'ont pas manifesté de féminisme particulier.
Non, et puis qui se seront en fait retrouvés coincés dedans, et donc comme vous dites, devoir faire une sortie un peu catastrophique pour les trois. Moi, ça me plaisait en fait de pas, parce que par ailleurs, il y a des spectacles géniaux qui sont en ce moment sur Delphine Seyrig, qui est une grande féministe complètement assumée. Je trouvais chouette aussi de voir comment parler de femmes, parce qu'en fait, parler des actrices, c'est parler d'archétypes féminins et donc de parler des femmes aussi plus largement. Parler de femmes qui sont dans le patriarcat, qui essayent de s'en sortir sans avoir la pensée féministe, qui ne savent pas comment faire, qui sont coincées en fait. Et qui...
Bon, ça montre tout
c'est-à-dire
le système,
que ça nous
parce que ces
aussi.
Femmes-là, on peut, oui. On peut regarder aujourd'hui, depuis aujourd'hui en disant bon, elles ont été dans des carcans, sans ces carcans, on ne saurait pas qui elles sont. C'est ça qui les
c'est
a
vrai.
Fait.
Hein. Oui, et après aussi ce qui est terrible, et ce dont parle le spectacle, c'est que ce n'est même pas les personnes maintenant qu'on connaît, c'est les marques qu'elles sont devenues.
C'est Marilyn Monroe sur une tasse,
sur
une tasse
les
à café,
mugs, ouais. Voilà, sur des oreillers. Et en fait,
j'ai honte, j'en ai un chez moi.
Mais bien sûr, mais moi aussi, on m'en a tellement offert parce que comme je lui ressemble.
J'ai aussi Dark Vador.
voilà. Le pauvre, on ferait un spectacle sur Dark Vador et sa vie ordinaire. Parce que voilà, avec Nicolas Douté, le dramaturge, on a essayé dans l'écriture de se rapprocher d'une recherche sur qu'est-ce qu'aurait été la vie ordinaire, les vies ordinaires de ces trois femmes. C'est évidemment fictif, puisqu'en fait, on est parti de nos vies à nous pour écrire. Donc, ça parle beaucoup de pommes de terre sautées. Je ne sais pas si vous avez vu le teaser du spectacle, je vous l'enverrai.
Ouais.
Ça parle beaucoup de pommes de terre et puis de régime alimentaire.
Bon, voilà,
puis...
si vous voulez voir Marilyn Monroe éplucher des patates, venez voir.
Ouais, et bah alors, je ne veux pas trop vous spoiler, mais oui, oui.
vous les faites tomber de leur piédestal, en fait.
Ouais, ou en tout cas,
vous êtes des iconoclastes.
On essaye d'imaginer quelle était leur vie.
Bon, elles ont été dans un monde aussi, ce 20e siècle, où il a fallu apprendre cette notoriété planétaire. Ça n'existait pas avant.
Ouais, elles l'ont inventé.
Comme les Beatles, comme Charlie Chaplin, comme toutes sortes d'artistes du 20e siècle qui sont passés d'une notoriété locale qui pouvait déjà être énorme hein,
oui,
au 19e
oui.
siècle, etc., à quelque chose de planétaire. C'est fou.
À quelque chose d'industriel, en fait, on peut le dire. Et capitalisme au plus haut point, quoi.
Voilà, Falta Lady, donc dès demain au Théâtre Oriental à Vevey jusqu'au week-end, jusqu'au 13 octobre. Vous êtes à la mise en scène avec vos copines au jeu Danae, Dario, Lisa, Verrier, Sarah Calcine, c'est donc vous. Et puis le gars que vous avez pris pour le maltraiter en scène.
Ouais, voilà.
Arthur Via.
Il est
Dieu.
Très beau dans le spectacle.
Et votre compagnie, c'est Boule à Facette.
Boule à Facette.
On n'a pas parlé de fonder une compagnie, ça pourrait être aussi un sujet de conversation intéressant avec des jeunes comédiens, mais on arrive au bout de cet entretien.
Mais alors avec plaisir,
donc,
pour une prochaine.
Tout le meilleur.
Merci beaucoup. Merci.